VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Au Congo-Brazzaville, l'opposition fait contre mauvaise fortune bon cœur. Après la désignation du président Denis Sassou Nguesso par le parti au pouvoir pour le représenter au scrutin du 20 mars prochain, Guy Romain Kinfoussia, un leader de l'opposition à Brazzaville, affirme que l'opposition congolaise évitera surtout la politique de la chaise vide.
C'est un résultat qui était connu d'avance. Ce n'est pas une surprise, ni pour le peuple congolais, ni pour ceux qui suivent l'activité politique au Congo. M. Sassou, de manière unilatérale, a voulu changer la constitution par laquelle il a eu toute la légitimité d'être le président du Congo. Et en cours de parcours, avant la fin de son mandat, il l'a abandonné pour faire adopter par référendum une autre constitution. Un référendum qui s'est mal passé. Sa volonté farouche, c'est d'avoir un troisième mandat, mais en réalité, c'est pour rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Pour se maintenir au pouvoir de manière tout à fait protégée, il est obligé de forcer la loi fondamentale qui lui donnait juste deux mandats. La course vers laquelle M. Sassou est en train de galoper est une course pour se maintenir au pouvoir, vitam aeternam.
Maintenant que la course est déjà lancée, que compte faire l'opposition ?
L'opposition, on va y aller à condition que les conditions permissibles soient respectées.
Guy Romain Kinfoussia, un leader de l'opposition au Congo, Brazzaville, au micro de Nani Talit. On reste en Afrique centrale. Grand des étudiants de l'université de N'Djamena au Tchad, c'est particulièrement au campus de Toukra, à une dizaine de kilomètres de la capitale tchadienne. La police est intervenue hier pour disperser leur mouvement d'humeur. Les étudiants revendiquent de meilleures conditions d'études sur ce campus, pourtant inauguré en 2012. Les explications de Richard Nguelem, secrétaire général de l'Union des étudiants tchadiens, section de N'Djamena.
Les gens de Toukra revendiquent la réouverture du restaurant qui est fermé faute de financement et de l'électricité sur le site de Toukra et puis la bibliothèque et le centre de santé. Donc voilà les revendications des gens de Toukra. C'est là, 3 semaines, le gouvernement n'a pas répondu. Ils sont obligés de manifester, de barricader. Le site de Toukra est loin de la ville et il n'y a même pas un centre de santé. Même l'année dernière, nous avons perdu 10 étudiants et nous ne voulons pas enregistrer encore des victimes. C'est pourquoi les étudiants revendiquent une ambulance sur le site de Toukra. L'année académique 2015-2016 vient d'être lancée, le 15. Mais jusqu'à là, tout est bloqué à l'autre, surtout sur le campus de Toukra. Parce que les étudiants exigent à ce que le minimum de revendications soit satisfait avant que le cours puisse démarrer. Donc, la situation reste toujours bloquée à tout cas.
Richard Nguelem, secrétaire général de l'Union des étudiants tchadiens, section de N'Djamena. On passe à l'Afrique de l'Ouest, ouverture demain à La Haye du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Ce sera la première fois qu'un ancien chef d'État comparaît devant la CPI. Éric Manirakiza.
Laurent Gbagbo, 70 ans, et Charles Blégoudé, 44 ans, seront sur le banc des accusés. Les deux hommes vont plaider coupables ou non coupables de 4 crimes contre l'humanité, meurtre, viol, actes inhumains et persécution. À l'ouverture, la procureure Fatou Bensouda prendra la parole, ainsi que les représentants des victimes, puis les avocats à la défense. L'accusation d'y disposer de 138 témoins qui ne seront pas tous appelés à la barre est de 5300 éléments de preuve. Ce procès devrait durer 3 à 4 ans. La crise post-électorale de 2010 avait fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, arrêté en 2011, est le premier ancien chef d'État livré à la CPI. Son épouse Simone Gbagbo a été condamnée à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Jusque-là, aucun membre du camp d'Alassane Ouattara n'a été inquiété par la CPI. Les partisans de M. Gbagbo sont attendus devant la CPI pour dénoncer ce qu'ils qualifient de complot ourdi par la France.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Niger, moins d'un mois avant le premier tour de la présidentielle du 21 février, la coordination exécutive nationale de l'Observatoire du processus électoral dénonce la campagne de propagande du pouvoir avant l'ouverture de la campagne électorale. Particulièrement visé, le président Mahamadou Issoufou, qui espère remporter un second mandat à la tête du pays. Au micro de Nicolas Pinault, les explications d'Ali Idrissa, coordonnateur du ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence.
On n'a jamais aussi vécu de fortes tensions à la veille d'élections dans notre pays que ces derniers temps. C'est ce qui nous inquiète aujourd'hui. Le cours des événements nous inquiète dans le sens que nous disons que si nous ne sonnons pas l'alerte, nous risquerons d'aller dans l'abîme et notre pays risquerait bien fort de se retrouver avec une crise post-électorale.
Qu'est-ce qui bloque concrètement ?
Ce qui aujourd'hui bloque, c'est carrément la violation des textes de la République en matière électorale. Aujourd'hui, nous constatons que le pouvoir, notamment, s'implique énormément dans la campagne électorale en violation de ces textes. Nous constatons l'implication de couches qui ne sont pas destinées à faire la politique, notamment la chefferie traditionnelle, les chefs religieux aussi sont en train d'être impliqués dans ce processus électoral en violation des textes en vigueur. Voilà un peu ce qui nous a amené à dire aux autorités de pouvoir arrêter cette tendance à ne pas respecter les textes de la République. Si vous suivez la télévision nationale dans notre pays, vous allez comprendre que ça ne joue que pour seulement un seul clan, notamment le clan au pouvoir.
Ali Idrissa, coordonnateur du ROTAB au Niger. L'agence privée mauritanienne Al-Akhbar a rapporté mardi soir avoir reçu une vidéo de l'émirat du Sahara, branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, affirmant avoir enlevé la Suissesse Béatrice Stockley à Tombouctou, dans le nord du Mali, dans la nuit du 7 au 8 janvier. D'après l'agence, en contrepartie de la libération de Mme Stockley, le groupe djihadiste exige la remise en liberté d'un certain nombre de ses combattants en prison au Mali et aussi de l'un de ses dirigeants, Abou Tourab, détenu à la Cour pénale internationale de La Haye. Réaction de la Suisse aujourd'hui, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères dit avoir connaissance de la vidéo des ravisseurs. Il a ajouté que la Suisse demande la libération sans condition de la personne enlevée en refusant de préciser s'il y avait eu une demande de rançon. Le gouvernement suisse, qui a mis en place une cellule de crise dès l'enlèvement, a indiqué qu'il suivait de près cette affaire et était en contact avec les proches de Mme Stockley et les autorités maliennes. Mauritanie, malgré la forte tendance à la baisse du baril de pétrole sur le marché international, les prix à la pompe n'ont pas changé. Des internautes, après avoir sonné la mobilisation sur les réseaux sociaux, ont organisé une manifestation à Nouakchott. Le maintien des prix des hydrocarbures en l'état s'accompagne d'une hausse des prix des denrées alimentaires à forte consommation. Écoutez ce qu'en dit Moussa Ould Sambassi, directeur de publication du quotidien de Nouakchott.
On sait que le principal élément du budget du État mauritanien était les dividendes reçus à partir de la vente du fer de la CNIM. Il y a eu une baisse importante du prix du fer sur le marché international. Aujourd'hui, on estime que le gouvernement, pour compenser cette perte, il refuse de baisser ses prix à la pompe comme tous les pays voisins. Écoutez, le Mali, le Sénégal, le Maroc ont tous baissé 3 fois, 4 fois, voire 5 fois, et nous pas une seule fois.
Moussa Ould Sambassi, directeur de publication du quotidien de Nouakchott.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'actualité dans le reste du monde, la Corée du Nord représente une menace ouverte, une menace déclarée pour le monde, a affirmé aujourd'hui à Pékin le secrétaire d'État américain John Kerry, alors que Pyongyang a effectué début janvier son 4e essai nucléaire. Les États-Unis feront ce qui est nécessaire pour protéger notre pays ainsi que nos amis et alliés dans le monde, a poursuivi M. Kerry. Pékin et Washington sont d'accord sur l'importance d'une résolution de l'ONU sur le sujet et pour accélérer leurs efforts pour y parvenir. Et puis en France, la ministre de la Justice a démissionné. Christiane Taubira était en désaccord avec l'exécutif sur un projet de déchéance de nationalité des auteurs d'actes de terrorisme. Christiane Taubira a été remplacée par Jean-Jacques Urvoas. Et puis, les belligérants syriens sont attendus vendredi à Genève pour de nouveaux pourparlers de paix. Le plus urgent de l'heure, selon les organisateurs, c'est d'acheminer les secours aux millions d'habitants des villes assiégées. Sur le terrain, les forces fidèles à Bachar al-Assad, appuyées par l'aviation russe, des combattants du Hezbollah libanais et des officiers iraniens, se sont emparés lundi de la ville de Sheikh Mishkin, près de la frontière jordanienne. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.